Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet ce matin, il n'y aura que deux députés de Montréal au sein du caucus de 90 députés de la CAQ. Est-ce que ça veut dire que Montréal a perdu son pouvoir de négociation, son rapport de force avec le gouvernement, Luc?
Il y a beaucoup à dire. J'espère que vous êtes prête, là, c'est un buffet.
Oui, on partage avec Nathalie le temps d'antenne.
Super, et puis, OK. Il m'a averti tout de suite en partant, ben, il n'y a pas tort. OK, non, ben Montréal n'est pas complètement dépourvu de pouvoir. Le Montréal a un rôle prédominant dans la CMM, hein, puis la CMM, c'est toute la région, puis dans la région, il y a beaucoup de bleu pâle. Ça, c'est un. Deuxièmement, Montréal fait partie de la FMQ, la Fédération municipale des municipalités du Québec, donc les grosses villes. Et là aussi, il y a un rapport de force à établir avec le gouvernement. On a vu que les villes de l'ensemble du Québec, même les plus grosses villes de l'ensemble du Québec, étaient pas mal d'accord sur pas mal de choses récemment. Notamment, ils ont demandé de l'argent pour la protection du territoire, la revue des règles d'expropriation. D'ailleurs, c'est en train de foirer à Mascouche, cette affaire-là. Toujours est-il que ça, c'est un deuxième levier. Un troisième levier, c'est donc les ententes entre les maires. Le quatrième levier, c'est les gens d'affaires. Bon, il y a beaucoup de gens d'affaires à Montréal. Il y a des chambres de commerce, il y a des corporations patronales importantes. Donc, c'est toutes des voies par lesquelles Montréal peut se faire entendre. Mais il n'y a rien qui remplace 6 ministres au Conseil des ministres. Rien. Il n'y a rien qui remplace la peur de perdre des députés ou une région en entier si tu prends telle décision. Or là, ils l'ont déjà perdu. Et c'est structurellement dangereux pour Montréal.
Est-ce que je permets, Luc?
Oui, j'ai reçu un avis, moi, là, qu'il fallait que je te laisse parler.
Moi, je dirais que par son poids, ça rejoint ce que tu dis, mais je le dis d'une autre façon. Par son poids démographique et économique, Montréal, la ville, a de facto un rapport de force qui l'avantage. Je dis bien de facto, il y a la ville, et tu l'as bien dit, Luc, il y a la communauté métropolitaine de Montréal. La ville de Montréal, Luc, est membre de l'Union des municipalités du Québec et non pas de la FQM. L'Union des municipalités du Québec qui est une organisation. Non, il n'y a pas de problème des plus grandes villes. Ça, c'est la réalité. Tu as parlé des gens d'affaires, tu as parlé évidemment des députés qui ont été élus dans les couronnes. C'est parfait. Mais dans la réalité, il y a une réalité. Dans la réalité, il y a quand même un élément qu'il faut noter. C'est l'absence de ministres autour de la table du Conseil des ministres. Moi, j'ai siégé dans un gouvernement où, à l'époque, il y avait 6 ministres. Six ministres de Montréal. Il y avait Monique Jérôme Forget, Lynn Beauchamp, Jacques Dupuis, Kathleen Veil, Raymond Bachan et Pierre Arcan. Et je peux vous dire que le poids de Montréal se faisait sentir à peu près à toutes les réunions du Conseil des ministres. Si on oppose Québec et Montréal, dans le cadre du gouvernement, là, du premier gouvernement de la CAQ, bien, c'est un peu la même chose. Il y avait Chantal Rouleau au Conseil des ministres pour représenter Montréal. Et à Québec, il y avait pendant ce temps-là 3 ministres, Geneviève Guilbeault, Éric Kerr et Jonathan Julien. Et on a tous senti les atomes crochus, plus d'atomes crochus entre le gouvernement, le premier ministre et la ville de Québec. Il semblait y avoir de plus grandes affinités qu'entre le gouvernement François Legault et la ville de Montréal. Et c'est pour ça que la mairesse a réagi fortement, mais elle était quand même extrêmement polie, diplomate, en disant on est prêt à travailler avec tout le monde. Oui, on va collaborer avec le gouvernement, avec tous ceux et celles qui veulent travailler pour les intérêts de la ville de Montréal. Et j'ose croire que tous les ministres qui reçoivent de la CAQ, qui reçoivent l'appel de la mairesse de Montréal, retournent les appels de la mairesse rapidement. J'espère qu'on est capable de faire montre de grand respect à l'endroit de la mairesse de Montréal.
Oui.
À ta question, Paul, est-ce que la ville a perdu son pouvoir de négociation? Je dirais oui et non, mais ça va obliger la mairesse et toute son équipe à développer à trouver des alliés, à travailler plus fort, par exemple, que le maire de Québec qui a plus d'alliés autour de la table du Conseil des ministres et qui risque plutôt d'avoir plus d'alliés au Conseil des ministres que la ville de Montréal.
Oui, d'autant plus que les deux représentantes de Montréal à la CAQ, là, une qui est passée par la peau des fesses, d'ailleurs, est-ce qu'il va-t-il avoir un recomptage?
Je pense pas.
Non, okay. Bon, Karine Boivin-Roy puis Chantal Rouleau étaient très, très, très à couteau tiré avec la mairesse. Là. Donc, c'était deux membres de l'équipe de l'opposition qui étaient d'Ensemble Montréal. Chantal Rouleau était là avant la mairesse, avec la mairesse de Lynn Mairesse. Et c'était des échanges acrimonieux. Bon, je pense que Karine Boivin-Roy est capable de passer par-dessus ça. J'arrête ma phrase.
Ah
oh,
oui, ben oui, ben oui, absolument. Ben non, mais tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Non,
mais,
absolument.
Mais la question de base, c'est le rapport de force. Moi, je me souviens quand, à Québec, Régis Labeaume recevait les premiers ministres.
Ah ouais.
Parce qu'il y avait un effet. Tu sais, il pouvait transformer une défaite en victoire, puis il y avait de l'influence. Donc, Harper allait faire son pèlerinage, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, puis bon... Là, à Montréal, j'ai pas besoin de vous autres nécessairement. L'argument de notre ex-collègue Bernard Drinville, c'est oui, mais François Legault vit à Montréal, Fitzgibbon a des intérêts économiques. Donc, même si ce ne sont pas des députés de Montréal, ils ont à cœur l'intérêt de Montréal pareil.
Oui, mais moi, j'ai envie de te dire là-dessus parce qu'il n'y a pas qu'il y a Éric Girard qui vit à Montréal, André Lamontagne, il y a quelques ministres qui vivent à Montréal. Mais ils vivent à Montréal, mais ils sont d'abord avant tout des ministres de d'autres régions ouais. également. Alors, je veux dire, c'est, l'autre chose, rien n'empêche le premier ministre de s'impliquer personnellement dans des dossiers qui touchent le Montréal et la ville de Montréal et la métropole. Il n'y a rien qui pourrait empêcher ça dans le futur, là.
Oui, mais moi, il y a un autre étage à la réflexion, là. C'est que, est-ce qu'il y a une sensibilité urbaine? C'est-à-dire qu'au-delà des personnes présentes, etc., quand tu regardes la CAQ, les raisons pour lesquelles elle a été élue, son discours, est-ce qu'elle a une sensibilité urbaine? Bon, premièrement, il faut réaliser là, que dans les trois principales villes du Québec, on a élu des députés qui ont une vision quasi contraire à celle du gouvernement en place. Sherbrooke, Québec, Montréal. Les trois plus grosses villes, des élus Québec solidaire ou en plein centre de la ville. Et que des élus de Québec solidaire. C'est pas des batailles chaudes à Québec ni à Montréal, là. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est que les élus, là, ce que tu as en tête et en bouche lorsque tu parles, là, c'est pas les enjeux urbains en ce moment au gouvernement. La crise du logement, ils ont pris un sérieux temps avant de la reconnaître, puis les outils mis en place pour y faire face sont totalement insuffisants. L'intégration des immigrants, c'est ici que ça se passe. Oui, il y a des communautés immigrantes un peu partout au Québec, des petites communautés immigrantes, mais quand les immigrants viennent, ils ont tendance à être ici dans les premières années de leur vie au Québec et parfois très longtemps. Les plans de santé mentale et itinérance. Pas quelque chose que
à Québec, c'est un enjeu là.
Oui, à Québec c'est un enjeu, mais c'est Québec solidaire aussi à Québec. T'sais, c'est comme c'est pas des gens qui vivent.
Pas juste Québec solidaire à Québec là.
Non,
mais
dans la ville centre, dans la ville centre là, Jean Lesage puis ouais, Tachereau. Ben, ouais. Les projets de transport en commun structurants, on a vu la distinction entre les ministres de Québec puis le maire de Québec. Les doigts nous ont crochés, là, comme toi, Gola, quand il y a eu ça. Je ne me rappelle pas de son nom de famille, le fameux corps arrière américain là, qui a eu sa commotion cérébrale, ouais. Les doigts ils ont crochés. C'est un peu ça qui est arrivé quand ils ont passé le tramway. Madame Guilbeault ne se pouvait plus, là. Ils ont tout essayé. Ils ont fait une sortie en fin de semaine et trois ministres pour essayer de bloquer ça. C'est pas la même sensibilité que la sensibilité urbaine.
Ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que Montréal, c'est Montréal. T'sais, nommer un ministre responsable de la Côte-Nord, ça va, mais nommer un seul ministre responsable de Montréal ou avoir un seul ministre responsable de Montréal au Conseil des ministres, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et moi, je pense que malgré la représentation
une seule ministre
politique...
par défaut. On peut-tu compléter la phrase?
C'est toi qui le dis. Ouais. Mais bon, est-ce que les choses vont changer, Luc, au prochain Conseil des ministres? On verra. Mais le premier ministre ne peut pas ignorer le poids que représente... Enlever le poids politique, là. Uniquement le poids démographique et économique de Montréal fait en sorte que déjà il y a le premier ministre ne peut pas ignorer ça. Écoutez, Philippe Couillard vivait la fin de semaine à Saint-Félicien. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une attention particulière pour Montréal.
Non,
Montréal
demeure Montréal. Il y avait, comme tu l'as dit, plusieurs ministres de Montréal autour de lui,
oui,
par exemple.
Oui, c'est sûr, absolument. Tout à fait. Ça aide, on s'entend. Ça, oui. Ça fait plus qu'aider, ça facilite la vie de la mairesse. Là, ça va la compliquer un petit peu dans le contexte actuel.
On s'arrête là-dessus. Tu avais quelque chose à ajouter?
Rappelons-nous que Coderre est allé chercher des nouveaux pouvoirs qui s'appelait le réflexe Montréal, puis qui était conscient que Montréal manquait de pouvoir. Des villes de la taille de Montréal qui ont aussi peu de pouvoir que Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Là, Londres a plus de pouvoir, Paris a plus de pouvoir. Il y a des villes-États comme Mexico qui décident de leur propre règlement. À un moment donné, il faudra se poser la question. Là.
Au retour, Hockey Canada, on a vu la décision prise hier par le conseil d'administration d'Hockey Québec de couper les fonds jusqu'au moment où il y aura une véritable réforme et surtout l'obligation de rendre des comptes chez Hockey Canada.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Donc, de s'assurer, puis même de jouer dans les élections qui s'en viennent au conseil d'administration. Et c'est à la demande pas mal de la ministre fédérale des Sports qui demande aux provinces, dans le fond, vous avez le pouvoir, faites le ménage à Hockey Canada. Et là, de l'autre côté, on a Hockey Canada, les dirigeants qui se présentent comme des victimes de la fausse information puis d'une campagne d'intimidation. Alors, qui a raison? Nathalie.
Ben, tout d'abord, faut le faire, là, la piètre défense que a servi la présidente du conseil d'administration, Andrea Skinner, hier devant les parlementaires à Ottawa. J'y piètre défense parce que plutôt que d'admettre les failles de l'organisation, c'est-à-dire les failles d'Hockey Canada, ben, elle fait porter la responsabilité de ce qui arrive aux médias. Je n'en revenais pas en lisant l'article paru dans la presse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Paul, Hockey Canada, c'est devenu une organisation malade qui a besoin d'un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est quoi? C'est on met à la porte, on fout à la porte le PDG actuel, Scott Smith, et on change les membres du conseil d'administration. Et là, en plus, elle a ajouté une couche j'appelle ça de insulter les citoyens que nous sommes, à nous prendre pour des valises, littéralement. Elle a même donné la note de A au PDG actuel, Scott Smith, en disant, ben non, écoutez, il fait une bonne job, Scott Smith. Ça a pris les révélations d'un journaliste de TSN, Rick Westhead, pour que toute la lumière sur ces scandales voit le jour, qu'on puisse en apprendre sur ce qui se passe depuis trop d'années à Hockey Canada. Là, c'est pas une victime qui est indemnisée, mais c'est 22 depuis 1989, imaginez. Et là, on apprend également que toutes ces cotisations qu'on versait au fil des années, les différentes fédérations dans les provinces, ben, ont servi, entre autres, en partie à compenser les victimes d'agressions sexuelles. Alors, écoutez, il faut faire le grand ménage et ça presse.
Ouais, c'est un... Tu sais, quand tu lis le plan d'action de Hockey Canada, il y a des choses là-dedans qui sont bonnes. Il est nommément dit là, que il fallait offrir un volet élargi sur la masculinité, une formation donc avec un volet élargi sur la masculinité, le consentement, les comportements toxiques et faire la promotion au hockey d'une culture favorisant la prise de parole. Bon, les mots sont bons, mais ensuite quand tu regardes le temps que ça a pris pour sortir cette phrase-là, le contexte, c'est-à-dire un contexte, c'est oui, on va faire ça, mais avec la même équipe qui était là avant. Puis oui, on a dépensé, on a mis 7 millions de côté, puis après ça, il y a eu 1,3 million en assurance, puis après ça, il y a eu d'autres ententes en supplément. Donc, on est rendu quasiment à 10 millions de dollars. Il y a eu 15 agressions depuis 1989. À un moment donné, il aurait fallu qu'ils disent « fin de la récréation ». Ça marche vraiment pas. Puis c'est de se fâcher un peu. Pas juste du marketing. Pas juste parce que, tu sais, des fois, il y a des partis qui font ça. Ou des entreprises qui font ça. Qui se donnent une nouvelle réputation, une nouvelle image. Non, faut aller au fond des choses puis que tu te dises, OK, il y en a un problème au hockey, puis on va en jaser un petit peu. Là. On a des gars, tu sais, on a des gars de cet âge-là qui ont beaucoup de mine dans le crayon, qui sont isolés de la société depuis leur jeune âge parce qu'ils font du sport. Ça se peut que, dans ce contexte-là, il y ait plus de masculinité toxique. Ça se peut. Puis en plus, c'est un contexte où la rencontre avec les filles qui se présentent dans les arénas puis qui vont dans les chambres de joueurs parfois, ça non plus, c'est pas sain. Là. C'est connu. Là. C'est pas... Donc, tous ces éléments-là, là, on va les regarder, on va les mettre à plat, on va les discuter, on va engager des firmes qui vont nous aider à comprendre comment, pas juste changer les mots, mais comment changer les comportements.
Mais c'est ça le problème, Luc, c'est qu'ils embauchent une firme de communication, pas pour changer la culture toxique qui règne dans le hockey depuis trop longtemps, mais pour sauver la face et la crédibilité d'une organisation qui a perdu, justement, toute crédibilité aux yeux du public et des organisations sportives au Canada. Et bravo à Hockey Québec qui a décidé de par une résolution, de désavouer Hockey Canada. Et j'espère que d'autres fédérations à l'échelle, dans les différentes provinces, le feront. Mais c'est quand même assez incroyable de la part de la présidente qui tente de présenter son organisation comme un bouc émissaire, attente de présenter l'organisation comme une victime des médias. Mais c'est insultant pour toutes les jeunes filles qui ont été agressées par tous ces joueurs pendant un trop grand nombre d'années. Ça manque de considération pour les victimes. Puis, je le répète, là, nous prend pour des valises comme citoyens. Il n'y a plus personne qui croit l'équipe qui est en place. Et Luc, il faut dénoncer la culture du silence qui règne chez Hockey Canada et les mensonges également. Parce que cette loi de l'omerta qui règne fait en sorte que on a encore des doutes sur la vérité, en fait. Puis à vouloir défendre, comme la présidente le fait, le PDG qui est en place, on se demande si le scandale n'est pas encore plus grand que ce qu'on sait déjà. Et je vous parle de mensonges, là. Hockey Canada qui a diffusé de fausses informations publiques sur la victime alléguée, affirmant qu'elle n'avait jamais collaboré avec la police, alors qu'on a appris que c'était complètement faux. Un rapport incomplet, parce qu'ils ont demandé un rapport d'enquête sur cette histoire-là qui s'est produite en 2018. Là. Ben, le rapport est incomplet. Se sont contentés de demi-vérités pour mener cette enquête sur cette présumée victime en 2018. Alors, rien ne va plus du côté d'Hockey Canada. La ministre Pascale Saint-Onge nous dit publiquement, annonce publiquement son impuissance. Elle demande de l'aide de toutes les autres organisations dans les provinces parce que le Hockey Canada, c'est une fédération autonome. Et politiquement, bon, ils ont déjà coupé les vivres à Hockey Canada qui les a privés de 6 % de leurs revenus. Mais de toute évidence, ce n'est pas assez, sachant que les contributions de Hockey Québec et de toutes les organisations des autres provinces représentent 40 % du revenu. Là, tu sais, on dit toujours monétaire que là, les fédérations dans les provinces ont un rapport de force qui pourront, s'ils assument leur responsabilité, faire plier Hockey Canada et forcer un PDG à quitter son organisation. Puis la culture à laquelle tu réfères, Luc, il faut que ça arrête. Comment se fait-il que c'est différent dans le football, que c'est différent au soccer? Comment se fait-il que cette culture du viol, se perpétue encore au hockey en 2022? Moi, je pose la question. Les parents, on peut plus tolérer ça. La culture des violences dans nos arénas, il faut que ça arrête.
Je suis pas certain que c'est propre au hockey tout court. Tu sais, peut-être que ça sort moins, mais...
Au Boulingrin, il y a eu plusieurs affaires.
Mais tu crois, me semble que dans le football...
Le comportement des partisans au soccer...
Oui,
okay. Il y a des moments de délire parfois, là.
J'avoue.
Mais en tout cas...
Mais là, c'est les deux affaires de viol en groupe qui ont frappé l'imagination.
Ouais,
mais,
ben oui,
là, je veux dire aux parents qui sont bien inquiets, qui ont payé des cotisations, puis dans
c'est
les...
C'est 3 $,
oui. Ouais, mais il y a des montants qui sont prévus pour les assurances, là.
Oui.
Ils s'assurent du côté d'Hockey Québec que les jeunes vont être assurés pareil, là. Il y a un moyen de faire ça. Puis les montants sont dus au 1er novembre.
Ah.
Donc, c'est le rapport de force d'ici, là. On est quand même encore quelques semaines devant nous. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. On fait le résumé, monsieur.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.